Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 15 janvier 1998 à Saint-Jeudard.
Nous allons continuer cette recherche, cette découverte de ce qu'est la causalité finale. Et si vous pouvez découvrir cela personnellement, jamais l'oublier. Je crois que le plus grand mal de notre culture actuelle, c'est-à-dire la fin d'une culture chrétienne qui a existé, nous assistons à cela. Alors, celui qui a le temps, qui regarde vierge ou pure de culture humaine, sans être un spécialiste, on peut facilement regarder cela par rapport au peuple hébreu, par rapport au peuple choisi par Dieu. Dans l'Église, il y a aussi des coupures, mais la coupure principal a été de fait quand les théologiens n'ont plus compris la causalité finale. Alors, comme nous sommes des intelligences très faibles, c'est quelquefois bon de regarder les conséquences de la perte de la finalité. C'est un présupposé connu. J'allais dire, c'est un chantier qui doit rester toujours ouvert pour vous, étant donné l'importance de la causalité finale. Et étant donné ce que nous vivons aujourd'hui. Et voyez qu'au point de vue de la pensée, c'est Occam et Tom Scott avant. Le plomb dans l'aile de la causalité finale, ça a été cette manière dont Tom Scott a considéré la finalité, la cause finale, comme une causalité métaphorique. Ça, historiquement, au point de vue de la pensée, c'est capital. En théologien, en croyant, nous pouvons dire c'est le coup de fusil le plus radical du démon par rapport à la théologie. Il n'a pas supporté l'édifice théologique de Thomas d'Aquin. Ça l'a mis en fureur. Et donc, tout de suite après, c'est curieux, Aristote n'a pas su de vrais disciples. Thomas d'Aquin n'en a pas eu de vrais disciples. Et parce qu'au fond, la causalité finale, la découverte de la causalité finale, qui est l'apport principal d'Aristote, Heidegger, qui n'est pas un aristotélicien, qui n'est pas un réaliste, reconnaît que c'est le sommet de la philosophie grecque, la découverte de l'entelégeion. Alors, faites-vous à vous-même ce chantier et creusez ça toute votre vie. Parce que c'est quand même le point le plus vulnérable de l'édifice de la recherche de la vérité. Et le point principal. Thank you. Descartes. Et puis, les idéologies. Et toutes ces idéologies remplacent la causalité finale par la causalité exemplaire. L'idée, c'est l'ersatz de la causalité finale. Et nous sommes en plein dedans. Alors, première découverte pour nous, reprendre dans une philosophie réaliste quel moment où nous pouvons découvrir cette causalité finale. L'amour d'amitié. C'est pour ça que l'amour d'amitié joue ce rôle si important en philosophie, joue ce rôle si important en théologie. définition et le niveau des rationes, qui est le niveau le plus radical au niveau de l'être, au niveau de ce qu'est la réalité existante. Et du côté de la recherche de la causalité finale, la découverte et la découverte de l'énergie. Entelekeia, qui est un mot inventé par Aristote, traduit un peu bêtement en français en disant l'entelechie. C'est effrayant, il reste comme mot. Entelekeia, alors que en grec, c'est très beau. l'énergayant, ce qui est principe, cause finale. Donc ça, c'est une découverte capitale. Et je crois que les trois types d'amitié dont parle Aristote doivent nous aider à faire ce dépassement. Réfléchissez à ceci. Découvrir pas la même chose. Ça, c'est le cœur. Et les forces de l'homme sont très limitées. Alors, l'un a poussé du côté technique, efficacité. Quelquefois, du point de vue moral, c'est tout juste. Il se fera pas prendre. La loi sera toujours parfaitement établie. On voit ça. Et on voit que cette causalité finale n'est pas du tout métaphorique. Elle est affective. D'une affectivité spirituelle qui conduit à la personne. Elle est en même temps efficace. Seconde manière de découvrir la causalité finale, alors encore plus proche de moi, c'est par le point de vue artisanal. Pour cela, que pour maintenir la finalité, il est quelquefois utile de revenir à un atelier artisanal. Parce que celui qui a beaucoup de peine d'atteindre l'aspect métaphysique va se jeter dans le berceau logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est historiquement, c'est comme ça que ça se passe. et le dressage. Tout le monde peut dresser un chien de garde. Tout le monde ne peut pas éduquer son enfant. Petite distinction très importante. Cette œuvre peut être très agréable. et les degrés de culture se voient par là. Quand on est encore à sortir d'une guerre, d'une piraterie qui a tout ravagé, on veut faire tout de suite des œuvres utiles. Et ceci suffit. La finalité se ramène à ce qui est nécessaire et utile. Mais la finalité, à ce moment-là, petit à petit, perd son caractère propre. C'est très bien de travailler pour ce qui est utile, mais il faut encore que cet utile soit très impératif pour nous. Parce que l'utile ne mobilise pas toutes mes forces. Alors là, il y a quelque chose de très important à noter. C'est qu'au fond, la finalité, quand elle se ramène uniquement à l'utile, est une finalité très relative, très liée aux circonstances de temps et de lieu. C'est la finalité qui perd sa force, mais a quand même la force de celui qui est affamé. Celui qui est affamé veut à tout prix en sortir. Et à ce moment-là, il se met à travailler. Et à travailler dur. Vous voyez toutes les modalités de la finalité. Depuis l'utile jusqu'à l'agréable, jusqu'à la personne. Vous avez donc là différentes modalités de la finalité. La finalité qui demeure très relative. C'est la finalité uniquement de l'utile. C'est très relatif. Donc c'est pas une finalité qui mobilise tout l'homme. C'est une finalité qui mobilise sa capacité, son efficacité, sa capacité de faire quelque chose d'utile. Mais ce n'est pas ce qui va mobiliser l'invention, qui va mobiliser la beauté du travail, réaliser quelque chose de beau et de grand. Période de disette. Vous avez donc qu'il y a deux grands ennemis Finalité.